France Inter. L'heure philo. Bienvenue dans l'heure philo, Lilian Allôme à la réalisation, Chantal Le Montagné à la préparation, Djoubaka au choix des musiques et Cédric Diallo à la console.
L'heure philo. Patricia Martin sur France Inter.
Un faux Brad Pitt, de vrais escrocs et une arnaque à 830 000 euros. L'affaire a fait la une cette semaine chez nous et à l'étranger. Au départ, Anne, 53 ans, qui débarque sur les réseaux sociaux. Elle est approchée par des malfrats, se faisant passer pour la mère de Brad Pitt, mais aussi son médecin, puis l'acteur lui-même, prétendument amoureux et en soudaine détresse financière après son divorce. Pour la convaincre de verser de l'argent pendant 16 mois, les escrocs fabriquent de fausses photos et vidéos de l'acteur grâce à l'intelligence artificielle. Aujourd'hui raillée sur les réseaux sociaux pour sa prétendue crédulité, Anna a pris la parole dans une vidéo ces derniers jours.
Je ne suis pas folle ou niaise, comme certains le prétendent. Je dis bien à chaque fois, cette photo, c'est du fake. Et à chaque fois, je le foutais par la porte, je le mettais à la porte et il revenait par une autre fenêtre. Le faux docteur me disait, il a avalé tous les cachets suite à votre message, il est dans le coma, etc. Donc il a voulu se suicider. Et en fait, on me mettait la faute sur moi.
Des arnaques au sentiment, pas rares du tout en France. 3300 plaintes ont été déposées en 2023. C'est 5% de l'ensemble des plaintes pour cyberarnaque. Et les préjudices à 6 chiffres sont fréquents. Le record enregistré, 915 000 euros. Alors qui sont ces escrocs, baptisés les brouteurs? La pratique vient essentiellement d'Afrique de l'Ouest, Nigeria, Bénin, Côte d'Ivoire, où de jeunes hommes ciblent des femmes de pays plus riches.
C'était le 20 janvier 2025 sur France 5 dans C'est dans l'air. Quelques exemples des joyeusetés d'Internet. Et comme l'écrit un troll repris par Valentin Husson, qui est un de nos invités dans son essai, il est dommage que les philosophes des Lumières aient été remplacés par des LED. Valentin Husson, qui publie un essai intitulé Foule re-sentimentale, petite philosophie des trolls chez Philosophie Magazine Éditeur. Second invité, Romain Badoir, qui est chercheur au centre INRIA de l'université de Rennes et auteur d'un livre publié au Seuil, Les nouvelles lois du web, modération et censure. Valentin Husson, beaucoup de brouteurs, beaucoup de trolls cachés dans le placard?
Beaucoup de brouteurs, beaucoup de trolls cachés dans le placard. Le cas de Anne dont on vient d'entendre parler.
C'est quand même extraordinaire.
C'est extraordinaire. Alors on peut disserter sur les raisons pour lesquelles elle a pu se laisser avoir, etc. Mais moi ce qui m'a impressionné, c'est pour ça que j'en ai parlé dans le livre, c'est la réaction qu'il y a eu à ce fait divers qui tout de même, c'est une victime qui a été arnaquée de plus de 700 000 euros, on vient de l'entendre, par des malfrats, des gens malfaisants qui étaient basés en Afrique. Alors oui, il y avait une situation grotesque où des photos étaient envoyées de Brad Pitt sur un lit d'hôpital un petit peu mourant et on voyait que c'était des faux. Et elle le dit d'ailleurs, je ne me suis pas laissé faire, je les ai foutus à la porte. Ils sont revenus. Mais ce qui m'a impressionné moi, c'est les réactions sur les réseaux sociaux. C'est la manière dont elle est devenue un mème, c'est la manière dont elle est devenu le visage dont on pouvait se moquer, le visage qui pouvait être l'objet de toutes les haines. Pas simplement des internautes anonymes, mais j'ai vu aussi de la part de célébrités, d'artistes qui ont relayé ces choses-là. Et c'est, voilà, ça m'a interrogé dans ce livre-là de voir comment une personne qui a été victime pouvait devenir l'objet d'une haine généralisée sur Internet.
Mais alors, qui sont ces trolls dont on va parler au cours de cette émission, qui sont des créatures un peu mi-animales, mi-humaines? C'est un peu des monstres, non?
Alors, ça vient de la littérature scandinave, ouais. Oui, bien sûr, mi-animal, mi-homme, et ils viennent un petit peu embêter les hommes. Mais alors aujourd'hui, troll, c'est un mot qui est relatif à ce qui se passe à l'écosystème du numérique. C'est un individu, un collectif ou un message, parfois soutenu et désormais beaucoup soutenu par les intelligences artificielles, qui vise à créer de la polémique et de la dispute.
C'est-à-dire que le troll est haineux?
le troll est haineux, pas simplement parce que le troll peut être drôle, et d'ailleurs drôle vient de troll en français. C'est la même étymologie, et là c'est le côté sympathique, hein. C'est l'amuseur public, c'est celui qui vient sur les réseaux faire une blague, une boutade, pour, comme dans le théâtre classique, comment dirais-je, rappeler l'homme à sa vanité, critiquer les mœurs pour les, comment dirais-je, les dépasser et faire apparaître leur bassesse. Mais en effet, je ne pouvais pas faire un livre sur ce côté très sympathique. Ce qui est beaucoup plus problématique, c'est les trolls en tant que haineux, en tant que figure du ressentiment, et peut-être aujourd'hui comme enjeu et symptôme politique, parce que l'usine à trolls et l'armée de trolls utilisée par exemple par Trump et Poutine, ce sont des enjeux désormais géopolitiques.
Et les effets sont planétaires et immédiats, c'est ça aussi le problème. Romain Badoir, l'objectif du troll, c'est quoi ? C'est de pourrir les fils de discussion ?
Effectivement, au début, alors déjà les trolls, ils existent depuis les débuts du web grand public, on les retrouvait sur les premiers forums, et à la base, leur objectif, c'était de pourrir les discussions par l'absurde, mais avec une visée comique, en fait. Et c'est pour ça que il faut pas, enfin, les deux, la haine en ligne et les trolls peuvent se recouper, mais c'est quand même deux phénomènes très différents.
Mais les frontières sont quand même poreuses. Hein.
Les frontières sont très poreuses parce que le troll est devenu politique, mais ça c'est quand même assez récent. C'est-à-dire que des trolls qui pourrissent les forums, il y en a toujours eu. C'est plutôt leur dimension politique et militante qui attire l'attention ces dernières années.
Mais est-ce que les polémiques au fond qu'ils se plaisent à créer ne sont pas quand même artificielles en un sens ?
Bah, c'est cette célèbre phrase « Don't feed the troll », ne nourrissez pas le troll. C'est-à-dire que la manière de réguler le trolling sur les premiers forums, c'était de dire « ne lui répondez pas, laissez-le parler tout seul et il va finir par s'arrêter ». Puisque si le but du troll, c'est de générer de l'incompréhension, de la colère chez ses interlocuteurs, et s'il n'arrive pas à ses fins, il va s'éteindre de lui-même.
C'est ça qui le motive, en fait.
C'est ça qui le motive.
Valentin Husson.
Ce qui le motive, en effet, c'est de, comment dirais-je, c'est tout ce qu'on lui donne à manger, en effet, comme disait Romain, c'est que le moteur de recherche du web, pour lui, c'est le moteur de sa haine, c'est-à-dire il va à ce qu'il déteste, parce que ce qu'il déteste le nourrit. Autrement dit, sa raison d'être, c'est véritablement ça, c'est de haïr. Je le dis dans le livre, plus il est H-A-I-T, plus il est E-S-T, c'est-à-dire d'un point de vue ontologique, pour citer un mot très philosophique, ontologiquement, c'est un être qui, dont l'être réside tout entier dans sa haine. Il existe à partir de cette haine-là.
La philosophe Clotilde Le Guil, autrice notamment de L'ère du toxique, c'était dans une matinale sur France Inter, ici même, en 2023.
Ce terme de toxique, qui aujourd'hui sur toutes les lèvres, qui a vraiment une nouvelle extension, a changé de sens en quelque sorte entre le 20e et le 21e siècle, puisqu'aujourd'hui on l'emploie pour parler du rapport à l'autre, on l'emploie dans le champ des relations amoureuses et sexuelles, on l'emploie donc pour parler d'un certain malaise dans le registre de l'intimité et dans le rapport à l'autre, et aussi bien, on l'emploie bien sûr, et ça c'était déjà le cas au 20e siècle, dans le champ de l'écologie. Mais voilà, ce qui m'a frappé, c'est que ce terme de toxique est aujourd'hui une sorte de métaphore qui renvoie à une substance qui circulerait entre les êtres et qui produit un malaise et qui désigne une nouvelle forme d'angoisse.
Le troll est toxique ?
Le troll est toxique, sa pratique vise justement à apporter du toxique dans le débat, mais s'il est aussi populaire et aussi visible aujourd'hui, c'est aussi parce que nos architectures de débat sur Internet sont elles-mêmes toxiques, avec ce qu'on appelle l'économie de l'attention, l'idée que on va chercher à favoriser le clic, la visibilité de propos outranciers pour capter l'attention des usagers.
Donc là, c'est presque une question esthétique.
Et esthétique économique aussi. Et du coup, les trolls savent très bien en jouer. Elles savent très bien jouer de cette architecture du like, du retweet, etc. pour gagner en visibilité et arriver à leur fin.
Vous allez loin, Valentin Husson, parce que vous dites que le troll est destructeur de civilisation, en ce sens qu'il fait disparaître les tabous. En tout cas, il contribue à les faire disparaître.
Oui, la psychanalyse nous a appris, avec Freud notamment, que l'être humain était structuré à partir du ça, du moi et du surmoi. Et le surmoi, c'était l'instance morale des censures et des tabous qui étaient transmises par l'histoire, par la famille, etc. Et aujourd'hui, on a l'impression que avec les trolls, les populations ne refoulent plus, elles se défoulent. Et c'est en ce sens-là que je parle de foule ressentimentale, c'est-à-dire que les civilisations, Freud le disait déjà après la fin de la Première Guerre mondiale, n'arrivent plus à réprimer leur pulsion d'agressivité, cette pulsion d'agressivité se défoule.
Mais c'est la toute-puissance infantile.
C'est la toute-puissance infantile qui est créée, Romain le disait, par cette économie de l'attention qui détruit véritablement les structures adultes du principe de réalité, où en définitive, normalement, on peut souffrir du délai et de l'attente avant d'obtenir quelque chose. On n'est pas l'enfant dans le supermarché qui se roule par terre parce que les parents nous ont dit non. Et cette économie de l'attention détruit véritablement la structure psychique, et cette structure psychique régresse d'un point de vue infantile. Et quand on est enfant, on pique une crise, on pique une colère quand ça va pas. Bah, le troll, c'est voilà, c'est peut-être cet enfant qui pique une colère quand ça va pas.
Le troll, c'est aussi le succès d'année du ragoût de café, vous le montrez, c'est le bourreau d'antan.
C'est le petit-fils du ragoteur des Incs, ouais, que ça. Je connais bien, parce que j'adore les bistrots. C'était celui qui
colportait... Ça doit voler plus haut, hein, quand vous ragotez... Enfin, excusez-moi,
oui. quand vous faites des ragots. À titre personnel, oui, mais enfin, on peut l'entendre quand on tend l'oreille. Ouais. C'est le petit-fils du ragoteur des prisons, c'est celui qui colporte la rumeur, c'est celui qui vit par procuration. Alors, cette manière de colporter la rumeur, ça restait dans un écosystème donné, qui était celui du café ou du pâté de maison. Désormais, avec le dispositif technique du web, la rumeur, la diffamation, l'injure publique peut se répandre immédiatement et quasiment universellement dans la seconde. Donc ça change quand même beaucoup.
Et le lynchage en ligne est une vraie pratique sociale. Romain Badoir, il y a les jeux du cirque aussi, on peut penser aux tribunaux populaires.
Complètement, il y a une continuité directe dans tout ça, c'est-à-dire que le troll, il existe par rapport aux gens qu'il va embêter sur les forums, mais il existe surtout par rapport à un public qui le regarde et qui consomme les humiliations publiques qu'il essaye de mettre en œuvre. Donc ça fait penser un peu au jeu du cirque, ça fait penser aussi plus récemment à la manière que l'on a de regarder des émissions de télé-réalité avec ce regard un peu biaisé, toujours moqueur en fait. On regarde des émissions qu'on adore détester avec des personnages dont on adore se moquer en fait. Et il y a un peu ce même phénomène derrière les formes d'humiliation publique sur les réseaux sociaux où on prend plaisir à se moquer de l'humiliation ou même d'assister à l'humiliation d'un internaute lambda.
Valentin Husson, Romain Badoir, vous êtes donc les invités de leur philo et nous parlons avec vous de ces trolls qui hantent les réseaux sociaux, les forums et les débats, ce qui entraîne donc, mais ça on va en parler, de nouvelles lois du web. Les Rita Mitsouko sur France Inter, il y a de la haine.
We'll be right back. serpent sur cette planète. On ne sait plus où se mettre, nous autres de la France. Une fois de plus, on fait ce qui nous arrange. Il fallait qu'on vous le dise, c'est dit, c'est fait. Si nous passions maintenant à toute autre chose, soyons plus positifs. Rien ne sert d'être trop triste, au contraire, bien au contraire.
De Michael Haneke, Funny Games.
Il y a quelqu'un à la porte.
Bonjour.
Bonjour, pardon de vous déranger, je viens d'à côté.
Je vous en prie, entrez.
Waouh, ils sont magnifiques ces clubs de golf. Monsieur Farber. Quoi?
Oh, papa!
Oh, vous voulez appeler une ambulance ou la police? Pourquoi vous faites ça? Installez-vous, je vous en prie. Moi, c'est Paul. On va parier maintenant. Vous, vous pariez que vous serez encore vivant demain matin à 9h, et nous, on parie que vous serez mort. Une poule sur un mur qui picote du pain dur, picoti, picota, lève la queue et puis s'en va.
Pourquoi vous ne nous tuez pas tout de suite?
Vous ne devriez pas oublier l'aspect divertissement. Tu as eu tort de faire ça, Anne.
Accueille-moi au sein de son royaume.
C'est génial. Je vous jure, génial.
Alors c'est un film, Funny Games, qui a presque 30 ans, c'est important de le dire. Valentin Husseau, est-ce que vous pouvez nous dire les raisons qui en font pour vous un point de référence, ou en tout cas de comparaison?
Et j'ouvre le livre avec cette référence à Funny Games, parce que, comment dirais-je, la haine a changé. Elle n'est pas pire, mais son paradigme s'est modifié. Dans Funny Games, Michael Haneke veut certainement faire une critique terrible du nazisme qui était au fond une barbarie civilisée. Nombreux de témoignages disaient que les SS avaient une vraie culture littéraire, qui parlait bien français, etc., etc. Et ces deux jeunes-là qui arrivent dans cette famille, j'ai revu le film encore récemment, c'est abominable, sont des garçons extrêmement polis. Hein, et il les torture, mais avec une grande politesse, en les culpabilisant. Mais si vous n'aviez pas fait ça, je ne vous aurais pas torturé. Aujourd'hui, c'est très différent. C'est que elle a plus de visage, cette haine. Encore une fois, elle est pas pire, mais elle est anonyme. C'est comme si, au fond, au lieu d'arriver par la porte, ces gens-là seraient sous notre lavabo, à épier nos conversations depuis des mois, et puis un soir entre amis, alors qu'on est en train de dîner, ils sortiraient de sous l'évier pour dire en quoi ils étaient en désaccord avec nos discussions. Elle a plus de visage, cette haine, elle est anonyme.
Et c'est une néo-haine ?
C'est une néo-haine, c'est une nouvelle forme de haine qui n'a plus les marqueurs d'avant. Romain en parlera mieux que moi, mais c'est certainement très difficile de la traduire devant les tribunaux. Elle prend à témoin comme les deux garçons dans Funny Games, mais elle prend un témoin en se cachant. Il y a un sadisme doublement pervers, parce que c'est un sadisme qui ne montre pas son visage. Donc oui, quelque chose de nouveau dans la haine arrive avec ces trolls, et ils en sont le symptôme.
Sans rationalisation et sans justification, au fond.
Sans rationalisation et sans justification, parce que c'est une haine qui n'est plus rationnelle. C'est une haine bête et méchante, c'est une haine qui ne prend même plus la peine d'écrire dans une grammaire correcte ou dans une syntaxe juste. Si vous voulez, la démocratie, c'était le fait que toute personne, eu égard à un argument rationnel, pouvait dire quelque chose. Aujourd'hui, on est entré véritablement dans l'ère du ressentiment et du populisme, où n'importe qui peut dire n'importe quoi et ça ne nécessite plus la raison. La passion a pris le pas sur la raison.
Romain Badoit, on va évidemment parler de tous les aspects juridiques, parce que ça, c'est évidemment ô combien important, mais on dit beaucoup de mal de ces trolls, là, depuis le début de l'émission, mais d'après des études que vous avez regardées de près, vous, en tant que chercheur, la présence des trolls augmenterait quand même le niveau d'attention des interlocuteurs et contribuerait même à l'enrichissement de la conversation, à condition de rester dans la conversation, parce que si je vois que c'est trop haineux, j'ai aussi le choix de partir.
Oui, c'est un peu paradoxal, mais effectivement, il y a des travaux en sociologie qui montrent que les trolls peuvent aussi avoir un impact positif sur la discussion, qui est tout simplement de liguer toute la communauté contre eux. Donc, les gens qui se retournent contre un troll sur un forum ou sur un réseau social, bah, en fait, vont se découvrir des points communs, vont renforcer leur lien, et ça peut avoir in fine des vertus positives. Ça peut permettre aussi aux interlocuteurs qui viennent contrer le troll de réaffirmer leurs valeurs, leurs principes. Enfin, ça, c'est quand même des études qui portaient principalement sur des forums en ligne où la culture de l'échange, elle était un peu différente, parce qu'on était quand même au sein de petites communautés qui partageaient aussi des codes en commun. Sur les réseaux sociaux, les communautés qui échangent sont tellement larges que cette dimension positive, elle s'effrite assez rapidement.
Mais l'échange, en plus, il se fait d'une manière quand même particulière, parce qu'on est, c'est une chose, c'est d'avoir là ce qu'on est en train de faire, on se regarde les yeux dans les yeux et nous échangeons, et d'une certaine manière on fait échanger aussi aux auditeurs qui sont en train de nous écouter. Avec Internet, avec les trolls, ça n'est pas du tout le même genre d'échange.
Ben, effectivement, c'est toujours un billard à trois bandes. Il y a le troll, la personne qui est ciblée par le troll, et le public qui regarde, sans qu'on sache très bien qui est ce public, enfin, quand on prend la place du troll. Et donc, les mécanismes par lesquels vont se créer la moquerie, l'humiliation, et plus, si on va plus loin, le harcèlement aussi, échappe effectivement aux échanges interpersonnels.
Alors, on a effleuré le sujet tout à l'heure de l'ironie et de l'humour qu'il peut y avoir chez les trolls. Valentin Husson, il y a un homme qui a fait l'objet de moqueries, et dont vous parlez dans votre livre, c'est un certain Jawad. C'était au lendemain du 13 novembre.
Ah oui, Jawad, le fameux logeur de Saint-Denis, qui a logé les terroristes après les attentats de novembre 2015 à Paris, et il avait eu cette phrase devant les journalistes de BFM, j'ai simplement voulu rendre service. C'est un drôle de service que d'accueillir des terroristes qui ont frappé la France. Et en effet, cette image-là a été détournée, et encore détournée, c'est devenu un même récurrent, où l'on met dans la bouche de ce type-là, Jawad, des choses, oui, extrêmement drôles pour parodier ce qui se passe dans l'actualité.
Il y a un autre cas concret dont j'aimerais bien qu'on parle, parce qu'ils sont, évidemment, ils sont révélateurs de ce à quoi on réfléchit en ce moment. C'est le cas de Justine Sacco. C'était en 2013, Romain Badoit, et c'est un cas célèbre de justice punitive en ligne. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire de cette Britannique qui, à un moment donné, part en Afrique du Sud en vacances?
Oui, alors c'est un bon cas qui illustre la manière dont, justement, les pratiques d'humiliation publique, parfois, se trouvent des justifications morales. Justine Sacco, c'est une Britannique qui part en vacances en Afrique du Sud et qui, en prenant l'avion, à Londres, je crois, de mémoire, tweet un tweet raciste, où elle dit de mémoire, je pars en Afrique du Sud, j'espère que je n'aurai pas le sida, je plaisante, je suis blanche. Elle monte dans l'avion, elle est son portable, et pendant le trajet en avion, il se passe beaucoup de choses sur Twitter. Twitter s'emballe, elle se fait insulter, son employeur est pris à partie,
il décide d'ailleurs, elle se fait renvoyer
en direct, alors qu'elle est toujours dans l'avion en mode avion, donc elle ne sait pas ce qui se passe. Son petit copain prend ses distances, etc. Et donc, en fait, elle arrive à l'aéroport du Cap et elle a tout un public qui est là pour l'accueillir. Et elle, évidemment, elle n'a pas compris ce qui se passait. Donc, elle plaide pour l'incompréhension, qu'elle voulait pas passer le message, etc. Mais ça illustre le fait que on est tous d'accord pour condamner la violence en ligne, mais en fait, quand cette violence elle vise quelqu'un qui, entre guillemets, l'a un peu cherché, on trouve des justifications à cette violence. Donc ça, c'est un cas connu de la culture web. Il y a plein d'expériences en sociologie qui montrent que si on montre un tweet qui insulte quelqu'un d'autre, on va le condamner. Mais si on nous dit que la personne qui se fait insulter est quelqu'un qui a volé de l'argent, qui a fait du mal à d'autres, qui a agressé, etc., on va considérer que finalement, cette insulte, elle est quand même un peu plus légitime. Et donc voilà, la violence en ligne, elle a aussi des fondements moraux et ça, il faut pas l'oublier.
Tout autre sujet, Valentin Husson, c'est la vie sexuelle. Le troll, c'est aussi le champion du rapport sexuel sans contact.
Oui, c'est-à-dire que si l'on imagine ce que peut être un troll, je m'amuse à le faire dans un peu méchamment en trollant les trolls dans ce livre.
Oui, mais c'est drôle.
C'est drôle. J'imagine toujours quelqu'un d'un petit peu frustré, quelqu'un dont le désir est un petit peu rentré et qui n'arrive pas à le satisfaire. Mais en même temps. Je voudrais pas non plus l'accabler, ce troll, parce que est-ce qu'on n'est pas dans une société du sans contact au sens le Covid, on a eu des gestes barrières, on a fait cours ou on a travaillé en distanciel, désormais paye sans contact. Enfin, tout ça, ce sont des symptômes où, en définitive, le rapport humain, le rapport charnel, on va rencontrer des gens sur des applications de rencontre. Donc, le troll n'est que le symptôme d'un rapport au désir qui est aujourd'hui troublé. Il y a un malaise dans le désir dont le troll est simplement le symptôme.
Jacques Lacan, on va se régaler, il n'a connu de troll que scandinave.
Que le transfert, c'est l'amour. Vraiment et simplement. Alors, pourquoi est-ce qu'on aime un être pareil? Je laisse pour l'instant la question en suspens, j'en ai donné une formule, et c'est à propos du transfert que j'ai parlé dans des termes qui sont pleins de pièges. Comme d'habitude, comme dans tout ce que je dis, bien sûr. Pourquoi dirais-je autre chose que ce dont il s'agit, justement, dans ce qu'il en est de l'inconscient? À savoir que le langage, ça n'a jamais, ça ne donne jamais, ça ne permet jamais de formuler que des choses qui ont 3, 4, 5, 10, 25 sens. Le sujet supposé savoir.
Le Lacan version numérique, Valentin Husson, ça donnerait quoi sur le plan de l'inconscient, du refoulement, de la répétition, du transfert?
Le Lacan version numérique, ce serait très très intéressant. Vous savez, Lacan disait, c'est sa thèse célèbre, l'inconscient est structuré comme un langage. Et je dis dans le livre que l'inconscient est désormais structuré comme un langage numérique pour plusieurs raisons. La première, c'est que aujourd'hui le transfert, il se fait plus chez le psy sur un divan. Il se fait avec ChatGPT. 85% des jeunes Américains, selon une étude, désormais parlent à ChatGPT comme s'il était un ami intime ou un psy, parce que, disent-ils, ils ne jugent pas moralement. Donc ça, c'est déjà une première chose. On n'a plus besoin de psy, on a l'intelligence artificielle. Deuxièmement, l'inconscient est structuré numériquement parce que le phénomène de répétition, qui est un des concepts fondamentaux de la psychanalyse, qui fait qu'on s'affronte toujours au même mur, qu'il y a des schémas d'existence qui se répètent, et c'est pour ça qu'on va chez un psy, pour pouvoir cesser de répéter sans cesse les mêmes ratages. Cette répétition-là, elle est conditionnée par les algorithmes. On ne rencontre que le même, on va sur les sites de rencontres, on coche des cases, et puis finalement, on ne rencontre jamais l'altérité, on rencontre toujours le même que soi.
Non, ça veut dire que l'autre est une forme d'inexistence.
L'autre n'existe plus quasiment dans le numérique. Il y a le troll qui est anonyme. Celui qu'on rencontre sur les applications de rencontres, c'est le même que soi, il n'y a pas d'altérité. Et au fond, celui qui pourrait venir nous déranger, nous troubler dans notre rapport à nous-mêmes, qui serait par exemple le psy, Désormais, c'est ChatGPT qui est davantage là pour nous conforter dans ce qu'on est que pour nous tirer, nous hausser au-delà de nous-mêmes.
Mmh. Alors là, on voit Romain Badoir, puisque vous en êtes un peu le spécialiste, les nouvelles lois du web, je rappelle le titre de votre essai, c'est qu'alors, sur le plan juridique, c'est absolument vertigineux. On se dit qu'on n'est quand même pas vraiment très bien équipé. Qu'est-ce qu'on fait ? Comment est-ce qu'on peut parler de la loi ? Comment est-ce que le droit s'adapte à ça ?
Bah ça, c'est une vieille question sur Internet. Effectivement, depuis les débuts du web grand public dans les années 90, les États, les régulateurs, le droit a toujours cherché à faire appliquer justement les lois existantes dans les environnements numériques, avec plus ou moins de difficultés, surtout beaucoup de difficultés quand même. Qu'est-ce qu'on fait ? Alors déjà, effectivement, la haine en ligne, le troll n'est pas codifié dans le droit. La haine en ligne, elle l'est. On sait que ce qui est considéré comme haine, c'est tenir des propos, appeler à la violence ou la discrimination contre quelqu'un en raison de ses origines, de sa religion, de son sexe, de son orientation sexuelle ou d'une situation de handicap. Donc ça s'applique aussi sur Internet. Le problème, c'est qu'effectivement, les trolls ou les réseaux haineux qui sont davantage politiques, ils savent très bien se jouer des règles propres aux environnements numériques, l'anonymat notamment, qui leur permet, dans un certain nombre de cas, de ne pas pouvoir être découvert, ou de manière, parce que il y a la police du droit, mais il y a aussi la police des plateformes, c'est-à-dire que
les plateformes qui s'en lavent les mains, ils ont été longtemps un peu comme des plombs en disant nous on s'occupe des tuyaux et pas du reste.
Voilà,
du
eux fond. À la base ils ne veulent pas s'occuper du contenu, sauf que ils y sont forcés quand même par les États et par leurs utilisateurs qui en ont marre de voir de la violence en ligne. Et donc qu'est-ce qu'ils mettent en place ? Des algorithmes de détection, des outils d'intelligence artificielle qui vont détecter des mots interdits, donc par exemple des mots racistes ou des mots misogynes, sauf que les trolls ou les réseaux racistes et misogynes savent très bien se jouer de cette détection en changeant une lettre, en utilisant un mot à la place d'un autre, etc. Donc on a l'impression que tous ces cadres qui se mettent en place, réglementaires, on court toujours après les pratiques des internautes et ont toujours un petit train de retard. Maintenant, aujourd'hui, ce qui est mis en place, c'est un nouveau cadre réglementaire au niveau européen qui s'appelle le DSA, le Digital Services Act, le règlement sur les services numériques, qui impose un certain nombre de nouvelles contraintes aux plateformes et aux acteurs de l'économie numérique pour lutter un peu plus efficacement contre la haine en ligne et la désinformation, avec plus ou moins de succès.
Mais oui, c'est ça, plus ou moins de succès, parce que ça pose quand même toujours le problème de la censure, de la liberté d'expression, et qu'il y a des projets de loi notamment, enfin, qui se sont fait retoquer par le Conseil constitutionnel au nom de la liberté d'expression.
Oui, en France, on avait cette loi Avia qui copiait en fait une loi allemande qui existe, qui est la Netzdege, qui est la loi de lutte contre les propos haineux.
Ils ont l'air assez forts, les Allemands, hein,
oui, alors, de par leur histoire aussi, je pense qu'il y a une sensibilité nationale qui fait que là, c'est plus facilement accepté dans l'opinion qu'on puisse légiférer sur ces questions-là. Mais effectivement, la loi Avia a été retoquée par le Conseil constitutionnel parce que elle représentait un risque trop grand pour la liberté d'expression. Alors, qu'est-ce qui était reproché exactement ? C'est que la loi Avia disait que les plateformes devaient retirer les propos haineux en un temps très réduit, en l'espace de 24 heures, lorsqu'on constatait qu'un discours haineux était tenu sur une plateforme. Ce que considéraient les défenseurs de la liberté d'expression en ligne, et à juste titre, c'est que si on pousse des acteurs privés américains à devoir réguler la parole publique dans des temps très court, en fait, ils vont arrêter de s'embêter, ils vont tout retirer. Et parfois, il y a aussi, et c'est même souvent, des gens dont les discours sont signalés, alors qu'ils ne sont pas haineux et qui font juste l'objet d'une tentative de censure par d'autres internautes. Donc, il faut arbitrer aussi entre ce qui relève de la haine en ligne et de la liberté d'expression. Et si on force les plateformes à réguler dans un temps trop court, elles vont avoir tendance à en enlever plutôt trop que pas assez. Et effectivement, ça présente un risque pour la liberté d'expression. En tout cas, c'était le raisonnement du Conseil constitutionnel.
Valentin Husson, la démocratie se mue en datacratie ?
La démocratie se mue en datacratie. En effet, le peuple qui se croyait souverain, et on le constate aujourd'hui dans beaucoup de pays, et dans le nôtre notamment, est dépossédé de son pouvoir d'autodétermination. Et le pouvoir qui règne désormais, c'est la datacratie, c'est-à-dire data, les données, c'est le pouvoir des données. Nos données sont récoltées et à partir de cette récolte de données, nous sommes profilés psychologiquement et à partir de ce profilage psychologique, nous avons tout un système de trolling qui est fait à partir d'algorithmes et d'une intelligence artificielle qui vise à poster des contenus sur nos réseaux et à influencer notre opinion. Donc c'est davantage les données qui sont récoltées et qui, comment dirais-je, sont utilisées contre nous-mêmes, qui règnent, que notre propre volonté souveraine et populaire.
Mais tout ça crée quand même un ensauvagement général, des relations sociales en tout cas, non ?
Un ensauvagement, je sais pas, c'est vrai qu'on parle d'ensauvagement ou de décivilisation, mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a désormais une crispation et une colère. Est-ce qu'elle est plus importante qu'avant ? Je ne sais pas, mais en tous les cas, elle est plus visible. Et elle est plus visible par le dispositif technique du web. Et elle n'est pas simplement plus visible, elle est captée et utilisée par les pouvoirs en place, et notamment par les populismes, qui essayent de transformer, de justifier cette colère.
Oui, elle est plus visible, effectivement. Est-ce qu'il y a plus de haine dans la société qu'il y en avait avant ? C'est pas sûr du tout. Et si on regarde l'histoire récente, non, c'est pas garanti. Par contre, effectivement, c'est plus visible. Donc, il y a un processus de légitimation. C'est-à-dire que si vous êtes adolescent et que vous voyez qu'il y a des propos haineux qui sont tenus en ligne, vous intégrez le fait qu'il est légitime de tenir des propos haineux. Alors que quand vous grandissez, comme ça a été notre cas autour de cette lab, dans un univers sans Internet...
Vous êtes gentil de m'associer à vos âges, parce que je pourrais être votre mère, mais bon, passons.
À une régulation dans les médias classiques, où les journalistes, justement, filtrent ce type de propos, il n'y a pas ce processus de légitimation. Et il y a aussi une forme d'habituation, c'est-à-dire que nous, en tant que public, on s'habitue au fait de voir des propos agressifs et haineux, et donc ça normalise.
Ça normalise, c'est ça. Le troll serait-il un esclave qui voudrait régner sur son maître ? La question se pose. On va y répondre. Michael Fossel, le philosophe.
Le rapport entre le maître et l'esclave, où le maître, bien évidemment, l'emporte sur l'esclave, va se contredire, c'est ça la dialectique, se renverser au profit de l'esclave. Pourquoi ? Car nous voilà donc dans la situation où le maître, qui, je le répète, a choisi la liberté, l'emporte en tout sur l'esclave, qui, lui, a choisi la survie. Mais que va faire l'esclave et que ne fera plus le maître ? Eh bien, travailler. L'esclave est celui qui travaille au profit du maître. Le maître est celui qui se contente, en quelque sorte, de jouir de sa liberté et de jouir de sa liberté dans le regard de l'esclave, car effectivement, le maître a besoin de l'esclave pour se sentir indépendant de toutes les contingences de la vie. Mais si j'ose dire, c'est l'esclave qui gagnera, car l'esclave, lui, va transformer le monde. Car qu'est-ce que le travail ? Sinon la transformation de la nature au profit de l'industrie, du confort, de la jouissance... et même, d'ailleurs, de l'esprit. L'esclave, et c'est bien la thèse de fond de Hegel, même s'il a dans un premier temps renoncé à sa liberté et s'est soumis au maître, demeure libre, mais d'une toute autre liberté, celle qui va vraiment intéresser Hegel, la liberté, je l'ai dit, de transformer le monde, de ne pas subir simplement la nature, mais d'investir la nature d'esprit.
C'est une archive qui date de janvier 2019. Alors, chez les trolls, c'est l'esclave ou c'est le maître qui gagne ?
Alors, le troll croit curieusement être le maître du jeu sur Internet. Parce qu'il déteste, parce qu'il rabaisse, parce qu'il fait la pluie et le beau temps. Mais en définitive, à peu près comme dans la dialectique du maître et de l'esclave de Hegel, on se rend compte que ce maître qui croit diriger les opérations et les débats sur Internet a besoin de ceux qu'il déteste. On le disait tout à l'heure, ne donnez pas à manger aux trolls. C'est exactement comme dans la dialectique du maître et de l'esclave. Le maître est dépendant de l'esclave et il devient l'esclave de l'esclave parce que l'esclave transforme la terre et lui donne à manger. Lui, il ne sait pas travailler. Le troll est dépendant de ceux qui le donnent à manger. Il est dépendant de tous les contenus qu'il aime à détester et à haïr. Et en ce sens-là, oui, il y a un retournement qui fait que c'est lui qui est dépendant de la reconnaissance des autres.
C'est aussi votre avis, Romain Bédouard ?
Oui, oui, bien sûr. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup de psychologie du troll depuis tout à l'heure. Et le succès du troll, c'est aussi d'être sorti d'Internet. C'est devenu un personnage courant dans les conversations entre nous. On parle de troller une conversation ou un événement. Et je peux pas, moi, m'empêcher de faire un lien aussi avec une situation plus sociologique qui crée beaucoup beaucoup de ressentiment, qui est aussi le sentiment de déclassement social, génération après génération, où les nouvelles générations se rendent compte que, en fait, elles n'ont pas accès au niveau de vie qui leur a été promis par leur niveau de diplôme ou autre. Et je pense qu'il y a ce gros ressentiment, il s'exprime aussi à travers les trolls, d'un point de vue un peu nihiliste, quoi, de dire, bon, de toute façon, ça sert à rien. Donc,
ah, ne parlez pas de nihilisme à Valentin Husson, hein. C'est un nihiliste, le troll.
C'est un nihiliste, le troll, et le nietzschéen que je suis pense en effet que le troll, c'est celui qui, au sens même où Nietzsche définit nihilisme, c'est-à-dire la dévaluation de toutes les valeurs, c'est celui qui dévalue tout, c'est celui qui ne pose pas la question de Leibniz, qui est la grande question de métaphysique, pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien, mais c'est celui au fond qui donne réponse à la question pourquoi y a-t-il rien plutôt que quelque chose. Et c'est celui qui est obligé de rabaisser, faute de pouvoir s'élever à celui qu'il est en train de critiquer. Donc lui, il y a quelque chose de profondément nihiliste, c'est-à-dire de destructeur.
Vous êtes bien sûr France Inter, et c'est l'heure philo que vous écoutez. C'était Green Tea Peng. Alors, il y a un sujet que nous n'avons pas encore abordé, qui est ô combien important, c'est les trolls politiques. Trump, Poutine, Bolsonaro, Milei, je ne sais pas, enfin, la liste est longue. Sont-ils des trolls politiques, Valentin Husson?
Ce sont des trolls politiques, et Trump, non seulement a comment dirais-je, la ressemblance avec le troll des années 80 avec lequel je jouais, avec lequel on jouait peut-être avec Robin quand on était gamin. Donc c'est quasiment physique. Hein. Et deuxièmement, c'est un troll au sens où il ne cesse pas de troller l'actualité, comme encore il y a deux jours avec cette vidéo, il est dans un avion de chasse et il déverse des excréments sur les manifestations anti-Trump. C'est difficilement imaginable, mais c'est le cas. C'est quelqu'un qui doit sans cesse être au cœur de l'actualité, faire la pluie et le beau temps, et en ce sens-là, avoir une influence sur le débat mondial. Mais il y a quelque chose de plus inquiétant encore, parce que ça, on peut en sourire, mais il y a quelque chose de plus inquiétant, c'est que Trump et Poutine, notamment, sont le pouvoir à partir d'armées de trolls et d'usines à trolls qui font beaucoup pour assurer leur pouvoir. Trump, par exemple, que ce soit en 2016 ou en 2024, a très largement été élu par des armées de trolls qui ont discrédité sur les réseaux d'abord Hillary Clinton pour la première élection, puis Biden et Kamala Harris. Et en ce sens-là, peut-être que Trump est le premier troll qui a été élu par des trolls.
Romain Batois.
Oui, il y a plusieurs échelles. Il y a les trolls à la tête des grandes puissances. Et puis, c'est vrai qu'au niveau des communautés en ligne, des internautes, il y a aussi une forme politique du trolling. On disait tout à l'heure qu'il y avait une dimension morale au trolling. Des fois, il y a une dimension stratégique, c'est-à-dire que si vous voulez occuper la place du débat sur les réseaux sociaux, vous pouvez diffuser un message, vous pouvez aussi faire taire vos opposants. Et donc, si aller harceler un opposant, aller le troller, parfois aller le menacer, ça peut lui passer l'envie de s'exprimer. C'est ce qui se passe, par exemple, quand on voit les masculinistes qui s'en prennent aux féministes sur les réseaux sociaux ou autres, avec des propos extrêmement violents, des appels au meurtre, au viol, des menaces très circonstanciées. Et effectivement, quand vous en êtes la cible, la fois suivante où vous avez envie de tweeter, vous vous dites est-ce que ça vaut le coup de le faire. Et donc, vous préférez vous taire. C'est ce qu'on appelle le silencing en anglais, le fait de silencer, de réduire au silence.
Réduire au silence, bien. Alors lui, il n'a pas été réduit au silence. Sa plume est une merveille. C'est Baudelaire. J'ai plus de souvenirs que si j'avais 1000 ans.
J'ai plus de souvenirs que si j'avais 1000 ans. Un gros meuble à tiroirs encombré de bilans, de vers, de billets doux, de procès, de romances, avec de lourds cheveux roulés dans des quittances, cache moins de secrets que mon triste cerveau. C'est une pyramide, un immense caveau qui contient plus de morts que la fosse commune. Je suis un cimetière abhorré de la lune où comme des remords se traînent de longs vers qui s'acharnent toujours sur mes morts les plus chères. Je suis un vieux boudoir plein de roses fanées où gît tout un fouillis de modes surannées, où les pastels plaintifs et les pâles bouchées seuls respirent l'odeur d'un flacon débouché. Rien n'égale en longueur les boiteuses journées quand sous les lourds flocons des neigeuses années l'ennui, fruit de la morne incuriosité, prend les proportions de l'immortalité. Désormais tu n'es plus, ô matière vivante, qu'un granit, entouré d'une vague épouvante. Assoupi dans le fond d'un Sahara brumeux, un vieux sphinx, ignoré du monde insoucieux, oublié sur la carte, et dont l'humeur farouche ne chante qu'aux rayons du soleil qui se couche.
Valentin Husson, vous connaissez le poème par cœur, on ne vous en voudra pas. Pourquoi est-ce qu'il étaye au fond votre raisonnement ?
Parce que ce que dit Baudelaire dans ce poème-là, c'est toute la charge du passé et de la mémoire que nous avons. Du temps qui passe. Or, aujourd'hui, je crois que c'est plus simplement cette belle mélancolie ou cette belle nostalgie que nous avons tous du temps qui a passé. C'est aujourd'hui, la mémoire est utilisée par les pouvoirs pour peser sur nous. Aujourd'hui, par exemple, Internet, c'est l'hypermnésie absolue. Dieu était omniscient, hypermnésique et omnipotent. Le web, c'est devenu Dieu. C'est-à-dire que si vous devenez un personnage public, on va chercher ce que vous avez tweeté ou ce que vous avez mis sur les réseaux ces 10 dernières années pour pouvoir vous en accuser. Par conséquent, le web est aujourd'hui devenu une mémoire à charge. Et nous vivons dans un monde aujourd'hui où règne fidèlement cette figure que Nietzsche appelait celle du prêtre et qui règne sur nous par la dette, par la faute, parce qu'on a fait, parce qu'on a mal fait, etc., etc. Et oui, alors voilà. voilà, ce poème de Baudelaire, il est plus simplement le signe d'une nostalgie subjective, il est le signe d'un collectif qui est plombé par une mémoire que le web a emmagasinée et dont il peut nous faire le reproche.
Rien ne s'efface plus jamais avec le web, Robin Badois.
Non, c'est vrai, c'est une problématique depuis longtemps maintenant, hein, cette question du droit à l'oubli. Comment on peut garantir aux utilisateurs d'Internet un pouvoir sur leurs données, sur leurs écrits, qui leur échappent en fait, effectivement. Le droit, ça, n'a pas réussi à vraiment à trancher. La meilleure piste, c'est peut-être celle de l'éducation aux médias et au numérique pour les jeunes générations qui arrivent et de les sensibiliser au fait qu'effectivement, les écrits restent, peuvent être copiés, peuvent être ressortis et qu'il faut s'en méfier.
Mais l'oubli, c'est fondamental.
L'oubli, oui, c'est fondamental. Oui, on ne peut pas vivre sans oubli. Encore une fois, c'est Nietzsche.
Enfin, ce qu'on n'oublie pas, en tout cas, ce sont vos essais. Merci beaucoup, messieurs. Valentin Merci. Husson, Foule ressentimentale, petite philosophie des trolls. C'est publié chez Philosophie Magazine Éditeur. Quant à vous, Romain Badoir, les nouvelles lois du web, modération et censure, c'est paru aux éditions du Seuil. Merci à tous les deux.
Merci.
Patricia.